Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs, parce que c'est l'heure d'Amandine Bégaud entre 12h30 et 13h. C'est le journal. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, ça rime aussi, vous me direz. Bonjour à tous. À la une, l'adieu à Hubert Germain, dernier chevalier de la liberté, a dit tout à l'heure Emmanuel Macron. Nous irons sur place au pied de l'Arc de Triomphe dans un instant. Une joueuse du PSG, toujours en garde à vue, et puis un conducteur de train sanctionné pour une minute de retard. Un indice, ce n'est pas en France que ça se passe.
Vers 12h40, nos deux débats, et on reviendra là évidemment sur cette crise qui secoue le Paris Saint-Germain, cette violence qui touche le sport. Et à 12h50, coup de projecteur sur ces commémorations du 11 novembre et cette question, comment poursuivre le devoir de mémoire sans ces acteurs ?
C'est notre question du jour justement sur RTL.fr. Parlez-vous de la guerre de 14-18 avec vos enfants ? Eh bien, vous dites non à 55%. Notre météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
C'est encore bien pluvieux du côté de la Méditerranée cet après-midi.
Et oui, les pluies orageuses seront à nouveau soutenues sur l'est de la Corse. On attend aussi un bon cumul de pluie du côté du Languedoc-Roussillon. Ces pluies vont déborder sur la région PACA. Elles seront plus faibles. Et c'est bien nuageux sur les Pyrénées, mais aussi sur l'extrême nord du pays. Partout ailleurs, du beau temps, malgré quelques grisailles tenaces sur le nord-est. Tout ça sous des températures en légère hausse de 8 à 14 degrés au nord. Et jusqu'à 20 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ces commémorations du 11 novembre et ce premier hommage à Hubert Germain. La cérémonie organisée sous l'Arc de Triomphe est en train de s'achever. Cérémonie marquée par toute une série de symboles minutieusement choisis, Brice Dugénie.
Oui, le cercueil d'Hubert Germain a remonté les Champs-Élysées sur un char de l'armée de terre marron, couleur terre de France, du nom de Bir Hakeim, célèbre bataille de 1942, dans laquelle s'est illustré le dernier compagnon de la libération. Puis, le cercueil a été placé au sol aux côtés du soldat inconnu, Emmanuel Macron, alors rendu hommage à tous les compagnons de la libération.
Serions-nous là sans Hubert Germain ? À 20 ans à peine, il quitta tout pour gagner Londres et bientôt se couvrir de gloire à Bir Hakeim. Serions-nous là sans Philippe Leclerc de Haute-Cloque ? Résistant de la première heure. Serions-nous là sans Philippe Kieffer ? Serions-nous là sans René Cassin, Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, Romain Gary et André Malraux ? Tous étaient compagnons.
Puis le président de la République a insisté sur le devoir de mémoire maintenant que les témoins sont partis.
Le dernier compagnon n'est plus, mais ces 1038 qui ont épousé la France, d'un amour inconditionnel allant jusqu'au sacrifice, ne disparaissent pas pour autant. L'ordre vivra. Il fera des compagnons de la liberté une source éternelle d'inspiration pour tous les enfants de France. La France est liberté. La France est liberté. Parce que de génération en génération, des femmes et des hommes se transmettent le flambeau de l'idéal.
Et pour ancrer Hubert Germain dans le présent, son nom a été ajouté à ceux des 7 soldats français morts en opération cette année.
Sergent Maxime Blasco, sergent-chef Yvonne Huyn, brigadier-chef Loïc Risseur, maréchal des logis Tannery Maury, brigadier Quentin Pochet, brigadier Dorian Issacagnan, colonel Sébastien Botta, monsieur Hubert Germain.
Puis le char a pris la direction du Mont Valérien, mémorial de la France combattante. C'est là, conformément aux souhaits formulés il y a 60 ans par le général de Gaulle, que sera inhumé en début d'après-midi le dernier compagnon, Hubert Germain.
Brice Dugénie au pied de l'Arc de Triomphe à Paris pour RTL. Cette cérémonie au Mont Valérien débutera tout à l'heure à 14h30. Cérémonie dans la plus grande sobriété et le silence, indique l'Élysée. Emmanuel Macron se recueillera seul dans la crypte, devant le cercueil. Il y déposera une croix de Lorraine taillée dans le bois de la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est ce que souhaitait Hubert Germain.
Et la voix du président de la République, manifestement, était différente d'habitude. Dans l'actualité également, cette affaire qui secoue le Paris Saint-Germain.
Aminata Diallo est toujours en garde à vue ce midi après l'agression la semaine dernière de l'une de ses coéquipières. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
Les enquêteurs cherchent à savoir quel rôle elle a pu jouer dans cette affaire.
Oui, Aminata Diallo, savait-elle que sa coéquipière allait être agressée ? L'a-t-elle sciemment entraînée dans un guet-apens ? Et si oui, pour quelle raison ? Voilà les questions auxquelles les policiers de la PJ de Versailles tentent de répondre en ce moment. Le soir de l'agression, Aminata Diallo ramène Keira Amraoui chez elle, en voiture, dans les Yvelines. Deux hommes cagoulés les forcent à descendre du véhicule. Diallo est immobilisé par l'un d'eux. L'autre frappe Amraoui aux jambes à coups de barre de fer. Les enquêteurs ont estimé que Diallo n'avait peut-être pas tout dit dans cette affaire. Ils ont donc décidé ce placement en garde à vue, tout comme l'un de ses amis proches, un homme qui a été extrait de sa prison de Lyon hier matin pour être entendu par la PJ de Versailles. Il est soupçonné d'avoir commandité l'agression depuis sa cellule. Aminata Diallo et son ami sont entendus pour des faits de violence volontaire avec préméditation. Et les enquêteurs exploitent sérieusement la piste d'un conflit sportif. Rappelons que les deux joueuses évoluent au même poste au PSG et en équipe de France.
Merci beaucoup Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
Et on parlera évidemment de cette affaire tout à l'heure, notamment avec Denis Troche, qui est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. La violence dans le sport, c'est un sujet.
C'est un sujet, autre sujet, dont on parle beaucoup en ce début de campagne électorale, la question de l'immigration. Immigration nécessaire, nous dit aujourd'hui le Conseil d'analyse économique. Elle permettrait, Martial Yeux, de soutenir et même de booster la croissance.
Oui, l'étude est formelle. Attirer des talents qui viennent d'autres pays permet de stimuler la créativité, d'inventer l'économie du futur. Aux États-Unis, le patron de Tesla, de Microsoft, de Google, de Moderna sont d'origine étrangère. C'est le cas d'un entrepreneur sur quatre et ces hommes et ces femmes, nés ailleurs qu'en Amérique, ont déposé un quart des brevets technologiques américains depuis 1940. Il n'y a pas de secret. En France, nous manquons de chercheurs, de médecins, d'universitaires. Nous laissons partir notre matière grise, comme les prix Nobel Emmanuel Charpentier ou Esther Duflo dernièrement. Et nous n'attirons pas ce type de profil. Résultat, on décroche au niveau de la recherche et de l'industrie du futur, comme les algorithmes ou l'intelligence artificielle. Nous accueillons une immigration historiquement peu qualifiée, puisqu'il y a 38% des immigrés qui ont à peine le niveau brevet des collèges lorsqu'ils arrivent chez nous. Et quand nous faisons venir des étudiants dans nos universités, 1 sur 5 seulement reste au-delà de 5 ans. Il faudrait donc renforcer l'immigration choisie, comme le Canada, la Grande-Bretagne ou l'Australie, qui accueillent proportionnellement plus d'étrangers diplômés. Les immigrés diplômés ne représentent que 13% des visas que nous accordons chaque année.
Martial Yeux, chef du service économie de RTL. Eux ont quitté Marseille pour rejoindre Paris. 10 parents ont entamé hier ce qu'ils appellent la marche des pères. 800 km pour réclamer l'égalité parentale en cas de séparation et que la résidence alternés deviennent la règle. Écoutez Rémi, il a 35 ans et c'est l'un d'entre eux.
Je vois mon fils un week-end sur deux, un mercredi fin d'après-midi jusqu'au jeudi matin sur deux et la moitié des vacances scolaires. Sur un mois classique, on va dire que mon fils passe 24 jours avec sa maman et environ 6 ou 7 jours avec son papa. Donc moi j'aimerais vraiment arriver et voilà réussir qu'on puisse mettre en place une résidence alternée parce que je suis profondément convaincu que ce serait ce qu'il y a de mieux pour notre enfant et j'ai envie de m'impliquer dans son quotidien, dans sa scolarité, dans plein de choses. Toutes les études internationales les plus sourcées, les plus documentées, validées par des centaines d'experts, démontre que cette organisation-là est ce qu'il y a de plus des bénéfiques pour le bien-être, le développement, y compris pour les jeunes enfants. Donc on aimerait bien que la France et la justice familiale s'intéressent un peu plus à ces études.
Et des propos recueillis pour RTL par Étienne Baudu. Selon l'INSEE, 4 millions d'enfants ont aujourd'hui des parents séparés. Seuls 12% vivent en résidence alternée en Belgique. Pour vous donner une idée, on est à 26% à 46% en Suède. Direction à Glasgow à présent et à 2 jours de la fin de la COP, les discussions avancent et plutôt dans le bon sens. Marie Billon.
Et oui, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2100 est dans le brouillon officiel de cette COP26. Glasgow veut donc aller plus loin que l'accord de Paris qui visait 2 degrés et si possible 1,5. Et même si les détails concrets restent encore flous, Aurore Mathieu du réseau Action Climat salue une première.
Une des choses quand même qu'on peut saluer, c'est la mention de la sortie des énergies fossiles. Donc il y a marqué concrètement dans le texte qu'on sortirait du charbon. Donc il n'y a pas pétrole et gaz et qu'on arrêterait les subventions. Donc c'est quand même positif parce que si ça reste dans le texte, ce serait quand même le premier texte qui enfin parle des énergies fossiles.
L'Arabie Saoudite, très dépendante du pétrole, pousserait pour que cette mention soit retirée du texte final. Rien n'est donc acquis, mais la déclaration d'intention commune des États-Unis et de la Chine est arrivée comme une bonne surprise hier soir. Le brouillon de l'accord de cette COP26 demande cependant à chaque pays d'être plus ambitieux, car toutes les promesses de la première semaine ne suffisent pas, même si elles sont tenues, à garder la hausse des températures sous 2,4 degrés, loin de l'objectif de 1,5.
Marie Billon, en direct de Glasgow pour RTL.
Écoutez bien à présent au Japon, cette histoire qui risque d'en faire bondir plus d'un ici en France.
Un conducteur de train vient de saisir la justice après avoir été sanctionné pour une minute de retard, une toute petite minute, Bénédicte Tassard.
Oui, une minute de retard qui a occasionné une saisie sur salaire de 43 centimes d'euros. On ne plaisante pas avec la ponctualité des trains au Japon, surtout les trains à grande vitesse, les Shinkansen, avec un retard moyen sur l'année qui peut atteindre 30 secondes seulement, oui, c'est possible. Les horaires des trains sont fixés à 15 secondes près. Pour plus de 3 minutes de retard, un rapport est envoyé automatiquement au ministère des Transports. 5 minutes de retard et les compagnies ferroviaires s'excusent et délivrent des justificatifs aux salariés ou aux écoliers. Ce conducteur, lui, devait déplacer un train vide vers une voie de garage. Il s'est trompé de voie, retardant le prochain départ d'une minute. Une minute sans travailler, c'est une minute sans salaire pour la compagnie JR West. L'employé réclame maintenant près de 16 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral dû à cette épreuve.
Ça vous fait réagir, ça, Pascal, forcément.
Mais évidemment, et M. Farandou, peut-être de la SNCF, nous a écoutés. Il peut nous appeler au 3210 s'il le souhaite.
Merci beaucoup, Bénédicte. Lui n'a pas de problème de train et pour cause, il circule en traîneau. Ah, Père Noël, oui, ouais, ça y est.
Mais il est toujours à l'heure. Mais
oui. Et il ouvre son secrétariat. Non. Oui, la Poste l'a annoncé ce matin. Les enfants ont jusqu'au 17 décembre pour lui écrire et pour s'ils veulent avoir une réponse. Hein. On le rappelle, pas besoin de timbre. L'adresse, vous choisissez. Il faut juste qu'il y ait écrit Père Noël sur l'enveloppe. L'an dernier, la Poste a reçu 1 250 000 lettres destinées au Père Noël.
Et alors, il reste combien de dodo?
44. Bon, je tiens les comptes.
Formidable. 12h41, dans deux minutes. Premier sujet, la violence dans le sport avec cette affaire du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que le monde sportif professionnel de haute compétition est parfois très violent. Donc on va parler de cela avec Denis Troche, qui a été entraîneur du Paris Saint-Germain et puis qui s'occupe du mental des sportifs de haut niveau. Tous les coups sont parfois permis. À tout de suite.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégot et Pascal Pro.
L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se serait sans doute bien passée de cette affaire.
Aminata Diallo est-elle responsable de l'agression dont a été victime Kera Amraoui, frappée aux jambes avec une barre de fer?
C'est là que la notion de règlement de compte apparaît. Les enquêteurs ont placé un proche d'Aminata Diallo en garde à vue ce matin.
Règlement de compte, rivalité, il faut bien sûr rester extrêmement prudent, mais clairement, cette histoire qui secoue le PSG interpelle. Ce n'est pas tous les jours qu'une joueuse est agressée aussi violemment, pas tous les jours non plus qu'une autre est en garde à vue. Même le New York Times, figurez-vous, s'en fait écho. Bonjour Denis Troche.
Oui, bonjour à vous, Amandine et Pascal.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Alors, vous avez été, je le rappelle, entraîneur de foot, notamment au PSG. Vous êtes aujourd'hui coach mental. Une première réaction, peut-être, quand vous avez découvert cette histoire, vous vous êtes dit quoi?
Voilà, la première réaction, j'ai été bien entendu choqué, étonné, mais pas forcément surpris, puisque dans mon job, il y a effectivement une vision qui est parfois négative des comportements humains.
Pas surpris, c'est...
Non, c'est-à-dire que malheureusement, il y a parfois des comportements qui sont un petit peu exacerbés dans des situations particulières. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est vrai, je ne veux pas porter de jugement par rapport à cette action-là, mais en règle générale, lorsqu'il y a des situations hors normes comme celle-ci, c'est qu'il y a eu... quelque chose qui s'est passé dans la stratégie mise en place pour atteindre son rêve.
Vous avez été entraîneur du Paris Saint-Germain, notamment avec Arthur Georges, dans les années magnifiques. Et puis vous avez été entraîneur à Amiens, à Laval, à Troyes. Est-ce que vous avez souvenir dans votre vestiaire, puisque vous parlez parfois de sentiments exacerbés, de tensions ou de rivalités telles que produit, pourquoi pas, le monde du sport, le monde de la haute compétition, au point où des jeunes gens en seraient venus au point, pourquoi pas, ou à se battre physiquement, ou à imaginer, pourquoi pas, des scénarios tels que celui qui nous est rapporté ce matin?
Oui, bien entendu. Il est certain qu'un sportif de niveau tend vers quelque chose qui lui est nécessaire, c'est le rêve. Et il va mettre en place toute une stratégie positive pour atteindre ce rêve. Et à partir de ce moment-là, la stratégie positive, c'est tout le leadership positif qu'il va transmettre tout au long de sa carrière pour atteindre ce rêve.
Donc tous les coups sont permis. Vous avez vu parfois tous les coups sont permis.
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une stratégie positive à mettre en place quand on veut atteindre son rêve. Mais parfois, quand le rêve est brisé, la stratégie positive qui est menée par un leader ou par le leadership de la personne se transforme en dealership, c'est-à-dire par une stratégie négative à mettre en place parce que les personnes ont besoin de transmettre, de donner quelque chose.
Denis Troche, c'est plus dans le monde du sport que dans la vraie vie, ça? Dans le monde du sport pro?
Non, aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le sport ou ce qui s'est passé hier dans le sport, aujourd'hui, c'est dans la vie courante. C'est-à-dire qu'il y a souvent une anticipation dans le monde du sport. Le sportif anticipe, il a besoin de prendre des décisions rapides sans que ça passe véritablement par la grande réflexion. Et donc, ses actions sont immédiates et spontanées et instantanées.
Il y a quelque chose de plus primaire, peut-être dans un vestiaire, chose de plus brutal, chose de l'ordre de la compétition.
Il y a une différence entre brutal et primaire. Primaire, c'est instinctif, intuitif. Brutal, c'est violent. On peut très bien être intuitif et être dans la créativité et dans l'instinct sans être brutal. C'est simplement aller rechercher des mécanismes qui nous permettent de gagner du temps. Dans le monde du sport, c'est notre quotidien. Et ce quotidien, bien sûr, il a besoin, le sportif a besoin de ça pour trouver des solutions plus rapidement que la situation visible. Donc voilà pour quelle raison on doit anticiper.
Mais c'est vrai que dans la vraie vie, c'est quand même plus calme. On est dans une entreprise ici, RTL, généralement, les choses sont plus calmes. Mais c'est vrai que dans un vestiaire de foot, il y a, les gens ne se rendent pas compte parfois de la sélection qui se met en place dans un vestiaire de foot et qu'aucun endroit n'est peut-être plus sélectif que le sport de haut niveau, Denis Troche.
Oui, on a cette fameuse concurrence en interne et la concurrence est plutôt...
féroce.
Oui.
Elle est féroce.
Oui, elle est féroce. Elle est nécessaire depuis quelques dizaines d'années. On s'est rendu compte que dans le monde du sport et notamment dans le football, qu'il y avait une nécessité pour tirer la quintessence de son potentiel, d'amener les personnes à être en concurrence pour pour que ça puisse matcher. Le problème, c'est qu'il y a une concurrence interne et une concurrence externe, ce qui est aussi très difficile à négocier. Si on n'est pas accompagné, si on ne voit pas les choses avec beaucoup de sportivité, avec beaucoup de détachement, on peut tomber malheureusement dans certaines dérives.
Et juste d'un mot, c'est plus le cas aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans ?
Comme dans la vie de tous les jours, on a vu avec la Covid que les comportements, les attitudes étaient exacerbées, que les gens réfléchissent différemment. Et dans le monde du sport, c'était déjà d'actualité il y a quelques années.
Merci beaucoup Denis Troche.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes coach mental aujourd'hui. Vous avez longtemps été entraîneur. Vous connaissez parfaitement ce qu'est un vestiaire, ce qui n'est pas facile à gérer. Il est 12h50. On va marquer une pause et revenir avec le 11 novembre. On a tous a priori un ancêtre qui est mort en 14-18. C'est l'histoire française. Il y a 1 500 000 Français qui sont morts. A tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est quoi le 11 novembre ?
C'est l'armistice.
Et du coup, on commémore quoi ?
Bonne question. Franchement, je sais plus.
La fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, c'est vrai, oui, la première, oui,
c'est vrai. C'est le jour où la France, elle a fini la guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
La deuxième, t'es sûr ?
Ouais, je crois.
Mais non, l'armistice, c'est en fait la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18. Oui. Donc c'est une fête nationale et donc c'est férié.
Ces jeunes ont tous entre 11 et 17 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous ne savent pas vraiment exactement pourquoi ce 11 novembre est un jour férié. Alors est-ce inquiétant ? Doit-on juste en sourire ? Et surtout, comment poursuivre ce devoir de mémoire ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Nicolas Offenstadt.
Bonjour.
Vous êtes historien. Un mot d'abord sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça vous étonne ces jeunes qui ne savent pas tout à fait ce qu'est le 11 novembre ?
Non, d'abord parce que, vous savez, quand on les prend comme ça au débotté, c'est pas forcément non plus représentatif. Parce que dans une salle de classe, calmement, avec leurs professeurs, ils y répondraient comme ça, c'est différent. Donc il faut prendre ça avec recul aussi, abusement. Vous répondez plus rapidement que dans un cours.
Bon, en même temps, on peut les comprendre. La Grande Guerre, c'est loin. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à suffisamment parler de tout ça à nos enfants ?
Je crois que oui, pour plusieurs raisons. D'abord, si vous vous rappelez qu'il y a encore quelques temps, c'était le centenaire de la Grande Guerre qui a été absolument colossal. Il y a eu des milliers de projets dans toute la France, de nombreux projets scolaires. Il y a des milliers d'écoles à tous les niveaux qui ont été associées. Donc en France, il y a quand même une politique commémorative, notamment celle de la mission du centenaire à l'époque, qui a été vraiment d'une très grande ampleur. Donc toute cette génération qui, pendant 4-5 ans même, a vécu au rythme du centenaire de 14-18, je pense, a appris beaucoup de choses. Et puis, si vous voulez, moi je suis un partisan de commémoration pédagogique. C'est-à-dire que je pense que chaque commémoration doit célébrer un seul événement pour que ça puisse être l'occasion d'en discuter.
Du coup, celle de ce matin, elle ne vous plaît pas ?
Ben voilà, si vous voulez, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on fait tout vraiment pour que les enfants aussi, les collégiens, les lycéens, puissent distinguer les choses? Moi, j'étais effectivement, je trouve que c'est pas une bonne chose. Le 11 novembre, c'est une cérémonie qui a été faite par les anciens combattants de 14-18 pour rappeler leur sacrifice, leur mort et leur deuil. Et il est vrai qu'aujourd'hui, depuis notamment la loi de 2012, qui avait été prise à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, ça célèbre tous les morts pour la France. Et donc on le voit qu'aujourd'hui, ça peut donc mélanger les cérémonies. Moi, je suis assez hostile à cette confusion pour les raisons que vous dites. C'est-à-dire que pédagogiquement, ce n'est pas une bonne chose de montrer qu'on peut tout célébrer n'importe quand.
1 500 000 hommes morts entre 14 et 18, français. C'est une génération perdue. Et c'est toutes les familles qui étaient touchées. Et on a tous, je le disais tout à l'heure, un ancêtre, un grand-père, un grand-oncle qui est mort à Verdun.
Oui, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça que moi, je ne suis pas inquiet pour le souvenir de 14-18, parce qu'il me semble qu'il y a toujours cette grande résonance de 14-18 dans les familles. Pour beaucoup de raisons. Vous dites effectivement, à juste titre, 1 500 000 morts, mais il y a 8 millions de mobilisés. Ça veut dire que quasiment toutes les familles françaises, et bien au-delà de la France métropolitaine, d'ailleurs, avec les anciennes colonies, sont concernées. Donc la figure du poilu, c'est quelque chose, je crois, qui reste encore très fort dans les familles. Moi, j'ai travaillé sur ces questions de mémoire. J'ai été frappé, si vous voulez, de l'activisme des Français au moment du 11 novembre et pas seulement, pour rappeler justement cette mémoire de 14-18. Donc je crois que c'est un épisode qui reste encore très parlant.
Et vous dites, pas inquiet pour la Grande Guerre, le 11 novembre, vous êtes inquiet pour d'autres choses?
Oui, alors ensuite, effectivement, il y a des choses peut-être plus anciennes, il y a des qui sont plus compliquées, la période de l'entre-deux-guerres est parfois plus difficile. Oui, effectivement, je pense que 14-18, si vous voulez, puis vous l'avez dit vous-même en parlant des familles, il y a une émotion encore. Moi, je le vois bien, même avec mes étudiants qui sont des grands gaillards et gaillardes, 14-18, ça leur parle. Vous voyez ce qu'ont subi les soldats dans les tranchées, la violence des bombardements, les conditions extrêmes. Du point de vue émotif, c'est quelque chose qui est encore très évocateur pour des jeunes. Donc c'est une mémoire qui est très présente et effectivement, il y a d'autres enjeux qui peuvent s'effacer plus facilement, je crois.
Beaucoup ont expliqué le déclin de la France à partir de cette génération perdue, parce que beaucoup de personnes sont mortes, jeunes, des gens qui avaient fait Polytechnique, des gens qui avaient fait les études les plus importantes, des littérateurs, des auteurs de théâtre, etc. Est-ce que vous partagez cette analyse? Et on ne saura jamais par définition ce qu'auraient fait toutes ces jeunes gens qui étaient extrêmement brillants et promis au meilleur avenir.
Oui, là, disons que le déclin, c'est une question morale. Vous savez, on a toujours annoncé le déclin, même avant 1914. On expliquait même que l'agrégation déclinait, l'agrégation d'histoire, que les candidats étaient plus haut niveau. Donc tout est relatif. Mais là où votre question est juste, c'est que je crois qu'effectivement, ça a été quand même un deuil de masse absolument colossal et que ça a affaibli le pays. Et d'ailleurs, si vous voulez, je crois que ça a changé aussi le rapport à la guerre. La distance à la guerre est beaucoup plus grande aujourd'hui, si vous voulez. Quand aujourd'hui, il y a un mort, on considère que c'est quelque chose d'effarant, à juste titre. Et à l'époque, c'était évidemment par centaines de milliers. Et donc, du coup, le rapport aussi à la guerre a basculé avec...
Mais parce que les gens n'avaient pas l'information. À l'heure des réseaux sociaux, la guerre de 14-18 a duré une journée. Hein, parce que l'opinion publique n'admettrait pas que les piou-piou se fassent tuer à 500 km de leur maison.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous savez, cette opinion, d'ailleurs, pour faire un peu d'histoire, est devenue de plus en plus critique de la guerre. Et si au début, il y a eu sans aucun doute une certaine acceptation du conflit, les conditions qu'on a décrites, c'est-à-dire la violence inouïe qu'ont subi, vous l'avez dit, ces jeunes générations, ont fait que c'est une guerre qui était de moins en moins acceptée, de plus en plus critiquée, jusqu'à devenir, en 17-18, pas seulement en France, une guerre de plus en plus rejetée, justement, pour la violence qu'a subi toute une génération et qui d'ailleurs, d'une certaine manière, vous le savez, ça a créé le plus grand mouvement social de toute l'histoire du XXe siècle, c'est les mouvements des anciens combattants.
Dernière chose, Monsieur Hoffenstadt, un film pour ceux qui ne connaissent pas la guerre de 14-18 et qui ont envie cet après-midi, c'est férié, un film à regarder, un long métrage.
Génial, Les Fragments d'Antonin.
Ah, je ne connais pas.
Moi non plus.
C'est quoi Les Fragments d'Antonin?
C'est un magnifique film de Gabriel Le Baumin. C'est l'histoire d'un soldat qui devient fou parce qu'il voit trop d'horreur à la guerre et qui, je ne vous raconte pas tout, mais va être soigné au Val-de-Grâce et va progressivement retrouver une partie de sa raison.
Les Fragments d'Antonin, c'est un film de quelle époque ?
Ça a une dizaine d'années, c'est maintenant en DVD, on peut le retrouver très facilement et c'est un film splendide parce qu'il montre comment le bouleversement que les soldats ont connu dans les tranchées et il le fait à travers des flashbacks, c'est-à-dire qu'on voit à la fois la guerre et ses conséquences.
Eh bien merci. Merci vraiment beaucoup. On déborde déjà, mais c'était intéressant. Je pensais que vous diriez Les Sentiers de la Gloire. Mais Les Fragments d'Antonin à voir cet après-midi. À tout de suite.
RTL.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.